Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Et quand c'est une boîte ?
Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On fait le match 9e de la saison. Comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise, du décryptage pour tous les publics. Avec de la bienveillance, vous le savez, de la bonne humeur, du rire, des sourires. Retour à la Ligue 1 ce week-end avec actuellement Reims-Lorient. Et c'est Lorient qui mène à Reims sur le score de 2-1 après 75 minutes de jeu. Bonus dans On refait le match. Ce soir, il y aura 20h-23h, évidemment, RTL Foot avec Marseille-Bordeaux. Bonus dans On refait le match, la finale de la Coupe d'Europe de rugby, le score, avant de retrouver dans un instant Jean-Michel Rascol. Le score était de 15 à 12 il y a quelques instants.
21-12
désormais. Ouais. Merci messieurs. Eh bien voilà, les présentations sont
faites. Et c'est la mi-temps.
Tiens, bien, on va inverser. C'est Sébastien Tarago que vous entendez, que vous écoutez quasiment chaque samedi soir sur l'antenne de RTL dans On fait le match. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir. Pour la bonne humeur, c'est d'accord. Pour la bienveillance, on réfléchira.
De la chaîne du rire et du sourire alors quand même. Et de la chaîne L'Équipe. Karim Nedjari, directeur éditorial sport chez Webedia. Bonsoir Karim.
Bonsoir à tous.
L'ami Gilles Verdez, procureur d'En fait le match. Bonsoir Gilles.
Avec bienveillance. Bonsoir.
Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot sur l'antenne de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian. Bonsoir à tous.
Alors le menu. Je le retrouve. Le voici. Du lourd ce soir. Mediapro. Ah oui, Mediapro et le football français. Et si finalement tout s'arrangeait ? C'est une question un peu dérangeante, mais vous verrez qu'on aura un peu de biscuit et vous répondrez à ce biscuit. Mbappé, match tous les deux jours. Mais finalement, c'est donc possible de jouer tous les deux jours, contrairement à ce qu'on avait pu entendre, en tout cas la petite musique qui résonnait à nos oreilles. Pogba est-il le meilleur milieu de terrain du monde ? En voilà une bonne question. Et puis, bien sûr, Corinne Diack et Lyon. Lyon, rien ne va plus. Je vous poserai la question, messieurs. Alors, l'émission est évidemment toujours, et comme chaque samedi soir, 100% interactive. Elle est réalisée par Damien Béchiot. Bonsoir, Damien.
Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous.
Elle est filmée sur RTL.fr, via l'application également, et vos messages sur Twitter, @RTLFoot, relayés par Baptiste Durieux. Bonsoir, Baptiste.
Absolument, Christian. Bonsoir à tous.
Et à 18h34, eh bien, je vous dis à tout de suite. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Gilles Verdez, Karim Nedjari, mais également du rugby, la finale de la Coupe d'Europe de rugby, etc. Le Racing 92. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir Christian Olivier, bonsoir à tous. Effectivement, ça se passe pas très bien pour le Racing qui est mené 21-12 à la mi-temps avec 3 essais pour les Anglais. Des Anglais qui montrent que le rugby commence devant et c'est en force qu'ils ont inscrit ces essais. Le Racing qui a bien essayé de réagir, qui a marqué 2 belles réalisations par Zabo et puis par Juanimov, l'Argentin. L'ailier argentin, mais sur le plan du score, eh bien, le déficit est assez important. 21-12 pour Exeter devant le Racing.
Merci Jean-Michel, intervention évidemment dès que vous le souhaitez au cours de la seconde période. Et après 80 minutes de jeu en Ligue 1, match de 17h, Lorient a ajouté un troisième but et Lorient mène à Reims sur le score de 3-1. Messieurs, Mediapro football français, et si tout s'arrangeait ? Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, un rapide rappel des faits tout de même. Petit 1, Mediapro ne veut pas payer sa deuxième échéance de 172 millions d'euros. Petit 2, Mediapro envisage de renégocier le contrat sur 4 ans à raison de 814 millions d'euros par mois. Petit 3, la LFP, la Ligue, refuse tout net. Petit 4, Mediapro trouve que le football français traîne donc les pieds et va devant le tribunal de commerce de Nanterre. Et ça, c'est un mauvais signal, évidemment, concernant les finances de Mediapro. Petit 5, 6 ou 30 jours, l'échéance n'est pas réglé, la Ligue se donne le droit éventuellement de dénoncer le contrat. Petit 6, la Ligue, elle, hausse le ton également et saisit le tribunal de commerce de Paris pour aller chercher son argent, non pas en Chine, mais en Espagne. Et petit 7, la Ligue, lundi, choisira une banque pour emprunter 120 millions afin de recouvrir cette deuxième échéance. Alors, j'aurai quelques informations à vous livrer dans un instant et qui vous permettra de rebondir sur cette question et finalement si tout s'arrangeait. Mais après tous ces épisodes de la semaine, est-ce que, là on va faire un tour d'horizon et un tour de table même, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que vous avez une intuition ou est-ce que vous pensez vraiment que le football français est au fond du trou ? Qui veut l'antenne ? Enfin, qui veut le micro surtout ?
Allez.
Le football français est au fond du trou uniquement par sa faute. Moi, je tenais à le dire. Parce que quand on choisit de convoler en juste noces avec le diable, eh ben, on sait qu'on va en enfer. Tout le monde savait que Mediapro était une coquille vide. Ils ont couru après le milliard désespérément. Il y avait des diffuseurs qui auraient pu être plus sérieux qu'ils l'étaient déjà. Et à force de courir après ce milliard, ils se retrouvent sans rien. Et c'est les mêmes présidents qui aujourd'hui crient alors Mediapro, où en êtes-vous? Mais on le savait très bien, très franchement.
Gilles, vous n'étiez pas là vendredi, samedi dernier?
Non.
On avait dit que Mediapro n'était pas une coquille vide. On avait dit que Mediapro avait les reins solides en Espagne, avait même une chaîne, que Mediapro était par ailleurs une agence qui achetait des droits et qui les revendait. C'est ce qui aurait dû se passer en France, mais finalement personne n'a voulu racheter, donc ils ont créé leur propre chaîne. Et ce n'est pas à l'aune de ce qui s'est passé en Italie, où les Italiens ont retiré leur bille au dernier moment, qu'on peut dire que Mediapro est une coquille vide. Non, c'est une vraie entreprise.
Si vous voulez, moi je dis que la catastrophe était annoncée, elle est là. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que l'État français ne viendra pas au secours du football français. Parce que moi, personnellement, en tant que citoyen français, je refuse de payer pour ces incapables de président.
Karim Nedjari.
Ouais, ça fait 10 jours que ce feuilleton de Mediapro, vous avez bien résumé, parce que on s'y perd un petit peu. Hein. Moi, je suis même catastrophé. Votre point 7 est important. On vient de se rendre compte que le football français s'est rendu compte que finalement, il y avait Joy Media en Espagne, où on pouvait finalement peut-être récupérer de l'argent chez les Chinois,
chez les Espagnols,
via Joy Media.
Mais pas à Pékin.
Quand on emprunte un milliard, quand même, on vérifie un petit peu tout ça. Mais bon, tant mieux s'ils s'y mettent. Le problème numéro un, personne pour l'instant en parle, c'est toujours le même. C'est depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est la télédépendance. C'est-à-dire, tant que les clubs français seront dépendants de la télévision à ce point, 70% pour Nîmes et bon, 10% pour le PSG, mais en moyenne 55%, c'est là le vrai problème. Mais j'entends pas une seule idée pour l'instant pour te sortir de ça.
Attention, en Angleterre, les droits télé sont absolument considérables, aussi bien sur le sol anglais et à l'étranger, et les clubs en sont également très dépendants. Alors bien sûr, il y a des hospitalités, comme on dit, le public, oui, ok, mais je pense qu'en Angleterre, si ça s'effondre, au niveau des droits télé, c'est pareil, c'est une catastrophe pour les clubs.
Sébastien, ils ont plus de garde-fous parce que eux, ils ont un stade qui est rempli. Les billets, c'est 3 ou 4 fois pour la billetterie. Non, mais évidemment.
Regarde le rugby aujourd'hui en France. Le rugby en France aujourd'hui, on dit c'est la catastrophe parce que le modèle économique, c'est les supporters. Et les droits télé ne sont pas suffisamment forts. En fait, il y a des problèmes.
On marchait à côté du gouffre depuis des années. Sauf que là, on a arrêté un championnat. Alors qu'il aurait fallu aller au bout au minimum plutôt que de faire un tapis rouge pour le football français, et au moins toucher cet argent-là qui était dû. Au moins. Là, maintenant, on n'est plus au bord du gouffre, on est dedans. Mais qu'est-ce qu'on crée? Quelle est la valeur? Comment on met en valeur le football et comment on trouve d'autres recettes? Et pour l'instant, on a juste sorti.
Mais en fait, alors là, on s'éloigne un peu du sujet de l'actualité, pardon, mais moi, je trouve que ça révèle une absurdité totale. C'est-à-dire que le monde du football est absurde. Il y a trop d'argent et cet argent-là ne fait jamais avancer les choses. Les joueurs ne jouent pas mieux au football. Ils ne sont pas meilleurs parce qu'ils gagnent 50 millions d'euros par an. Et s'ils en gagnaient 5, tout irait bien pour eux, ils pourraient faire vivre leur famille.
Vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Mais attendez, on se doute bien quand même que là, ce qui est en train de se passer depuis quelques mois est historique. Donc moi, je connais pas l'avenir. Moi, à titre personnel, j'espère fondamentalement que oui, on va repartir à zéro et que tout va se casser la gueule. Parce qu'à un moment, faut le souhaiter. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que pour regarder du football, il faut payer 60, 70, 80, 100 euros. Et ça, c'est les gens qui payent. Mais au final, tout ça n'a aucun sens. Parce que le football n'est pas meilleur parce que Messi gagne 100 millions d'euros par an. S'il en gagnait 10, tout irait bien pour lui.
Alors, on complète le tour de table et ensuite, je vous donne les quelques informations supplémentaires qui vous permettraient de répondre à cette question. Et finalement, si tout s'arrangeait. Philippe Sansfourche.
En fait, on s'aperçoit que tout explose en même temps. C'est-à-dire que cette fameuse bulle dont on parlait et le fait que les droits étaient à chaque fois exponentiel, inflationniste, et qu'on arrivait à un seuil. C'est pas pour rien non plus que Canal et beIN avaient cette espèce d'entente sur la fin pour essayer de freiner la hausse des droits. Et donc la Ligue et les présidents avec eux ont essayé d'outrepasser en faisant cet appel d'offres anticipé et en allant chercher Mediapro sans que personne finalement le voie venir pour fixer un prix qui n'est pas le prix réel du marché. Donc déjà, il y avait ce risque d'explosion. Il se trouve que là, c'est la double peine, parce que ça intervient au pire moment où ça pouvait arriver. C'est-à-dire que les clubs sont structurellement en crise, du fait également de cette crise qui nous touche, qui fait que, on parlait de la dépendance au droit, mais il y a aussi une grosse dépendance au marché des transferts. Et les chiffres de la DNCG de cet été, ils sont terrifiants. C'est-à-dire que déjà, on tablait sur un déficit de 250 millions en fin d'exercice. Mais ça, c'était si les clubs français avaient pu vendre à hauteur de 800 millions d'euros sur le marché des transferts.
Combien ils ont vendu ? Même pas 400. Même pas 400. Ça veut dire que de 250, on passe à quasiment 700 millions de déficit. Et là, on parle même pas de droits télé.
Culbute à l'envers.
Donc, si les droits, si y a pas si les droits télé ne sont jamais payés ou sont payés à la baisse, plus les 700 millions qui se profilent, on va direct dans le mur, à la banqueroute.
Moi, là où je mets juste une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Gilles sur Mediapro, c'est que se serait-il passé si c'était Canal+ qui avait eu les droits ? Est-ce que Canal+ aurait, alors ils auraient payé hein, une partie, mais est-ce qu'ils auraient tout payé ? Je ne suis pas sûr. Je vous rappelle que Canal+ a refusé de payer pour les matchs qui n'ont pas eu lieu, ce qui se conçoit évidemment, mais Canal+ a aussi refusé de payer pour une partie des matchs précédents parce que il considérait que le spectacle n'était pas allé à son terme.
Oui, mais sur le championnat de France de rugby, Canal honore son contrat.
Oui, mais parce que les sommes sont bien moindres et les relations sont bien meilleures. Mais moi, je dis juste que on est quand même obligé de constater, et c'est à mettre au crédit de Mediapro, que le spectacle proposé n'est pas celui qui avait été vendu. Ça, on est d'accord. Alors, c'est pas une raison pour ne rien payer. Mais est-ce que c'est une raison pour tout payer ? Si vous achetez, je sais que vous êtes... vous adorez les voitures, vous avez beaucoup de sous, vous adorez des grandes BMW.
Oui, vous raison,
si vous achetez une BMW et qui manque de roues, peut-être que vous n'allez pas payer la totalité quand même.
Ouais, c'est une métaphore un peu tirée par les cheveux.
C'est la réalité. Est-ce que Mediapro a acheté le produit qu'on lui propose aujourd'hui ? Non.
L'autre chose qu'il faut ajouter.
Karim Nedjari, Gilles Verdez.
L'autre chose qu'il faut juste, c'est que dans tout ce bins de 1 milliard, en fait, il y a plein de fonds de pension qui sont venus juste se servir aussi.
Oui, oui.
Donc ces fonds de pension-là. Ça, c'est la théorie des dominos. Les fonds de pension vont vite se partir. Parce que s'ils ne peuvent pas se récupérer de l'argent,
ils étaient là juste pour faire du business et du trading.
Alors oui et non, Karim. Parce que justement, avec Philippe Dova, notre correspondant en Asie, depuis 48 heures, nous sommes au taquet et il a sérieusement entêté justement pour savoir ce qui se... non pas dissimulait, mais ce qu'il y avait derrière... ce qui n'est pas un fonds de pension, ce qui est un groupe d'investissement. Et je vous donnerai ces informations juste derrière la pub. Mais Gilles Verdez voulait ajouter quelque chose.
Et puis alors, j'ai hâte d'entendre vos informations parce que justement, moi, je voulais parler de la structure juridique. Il m'est arrivé dans un journal Feu François la même structure juridique que ce qui arrive à la Ligue. C'est-à-dire que l'argent venait parce que Joy, d'accord, détient Mediapro via deux holdings. On parlait de ça, d'accord. Mais maintenant, les financiers, les juristes du football français attaque Joy en espérant récupérer l'argent par Joy.
Parce que c'est plus facile de le récupérer, disent-ils, en Espagne.
Mais vous verrez que c'est une absurdité juridique totale parce que l'argent va être bloqué, le flux financier venant de l'étranger. C'était pareil à François. Le flux s'est interrompu. Bon. On n'a jamais pu aller à l'étape au-dessus à l'étranger. Ils auront un énorme mal à récupérer parce que par des holdings qui forcément vont avoir des structures juridiques extrêmement complexes et basées à l'étranger, vous ne pourrez pas récupérer le flux.
C'est un dossier passionnant.
Mais
je
ne
voudrais pas qu'on s'éloigne trop de ce qui est concernant aussi pour les auditeurs qui écoutent la radio, mais qui regardent la télé, qui voudraient savoir.
Et pour l'instant, ils peuvent regarder encore.
Pour l'instant, oui. Mais d'une certaine façon, Mediapro diffuse, mais gratuitement.
Oui, alors qu'il est, oui. Mais par contre, il faut payer l'abonnement. Hein, parce que j'ai essayé. Gratuitement, ça ne marche pas.
La publicité, les informations en provenance d'Asie. Et ensuite, vous répondrez à cette question. Et finalement, entre Mediapro et le foot français, si tout s'arrangeait. A tout de suite, c'est On refait le match. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Jean-Michel Rascol, 21-12, début de la seconde période. C'est bien cela, entre Exeter et le Racing.
21-12, Christian, et peut-être un moment important dans ce match, puisque Henry Slade, le trois-quarts centre anglais, a été l'auteur d'un plaquage dangereux sur Juan Imhoff. Et on est en train de revoir la vidéo pour savoir si ce même Slade va écoper d'une petite pénalité de 10 minutes au frigo. Peut-être pas le cas d'ailleurs, puisqu'on discute pas mal. Toujours est-il que l'avantage au début de cette deuxième période est bien de 9 points en faveur des Anglais, 21-12.
Merci Jean-Michel. Et le match est terminé entre Reims et Lorient. C'est Lorient qui l'a emporté à Reims sur le score de 3-1 entre 20h et 23h. Ce sera RTL Foot, bien évidemment, avec toutes les équipes d'Éric Silvestro et de Xavier Domergue, et notamment l'intégralité de Marseille-Bordeaux. Les informations, grâce à Philippe Dova, correspondant RTL en Asie, concernant cette plateforme d'investissement qui s'appelle Orient Antaï Capital, qui a acheté pour 53% Mediapro. Alors, il faut le savoir, 53%, ils sont majoritaires, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, et c'est donc éventuellement la planche de salut pour le règlement de cette affaire, si les Chinois veulent régler cette affaire. Elle regroupe, cette plateforme d'investissement, trois principaux actionnaires qui sont cotés à la bourse de Shanghai. Il y a une société qui est spécialisée dans l'énergie à 28%, une autre société spécialisée dans le tabac à 10%, une autre dans les médias à 10%, à 9,35% plus précisément. Et d'ailleurs, c'est la deuxième, celle spécialisée dans le tabac, appartient en partie à l'État chinois. Tout son public, donc, appartient à l'État chinois ou à la municipalité de Shanghai. Ça, c'est important. Mmh. Un autre rappel important. Shanghai est jumelé depuis 33 ans avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez. Elle tisse des liens depuis très longtemps, des liens économiques, scientifiques, culturels. Mmh. Et d'ailleurs, Philippe Dauvin me rappelait ce matin qu'il avait suivi lui-même la délégation en déplacement en Chine. C'était en 2017. Alors, quand on pense, quand on imagine, quand on échafaude un règlement politique, évidemment que ce règlement politique ne peut pas se sceller au plus haut niveau. D'ailleurs, je crois que le président de la République et le Premier ministre ont actuellement autre chose à faire. Mais il y a un second rideau de négociation. Pendant qu'il y a, non pas, je ne voudrais pas être insultant, injurieux, mais pendant qu'il y a un espèce de combat de coq là, entre Mediapro et la Ligue devant les tribunaux de Nanterre ou de Paris, les tribunaux de commerce, est-ce qu'en sous-main, à la fois, il ne peut pas y avoir une négociation? Et il semblerait qu'il y ait une négociation, d'ailleurs, politique, pas au plus haut niveau, mais en second rideau, pour régler ce problème, avec un argument qui n'est pas un argument fatal, mais Philippe Dauvin me le rappelait, la Chine, dont l'économie n'est quand même pas extraordinaire actuellement, eh bien prépare son plan quinquennal. Le Parti communiste prépare son plan quinquennal. Alors, où il considère que c'est une goutte d'eau dans les autres problèmes que la Chine peut avoir par ailleurs, ou pour redorer l'image de l'économie chinoise, eh bien, la Chine fait un effort. Rappelez-vous, quand la Chine a racheté Mediapro, c'était pour relancer la route de la soie. La route de la soie, à une époque, c'était les commerçants chinois qui allaient en Europe investir. Là, c'est une route de la soie version contemporaine. Le voilà, le règlement politique, Gilles Verdez. Ah, et vous ne paierez pas avec vos impôts.
La thèse est extrêmement séduisante. Dit comme ça, avec talent, on signe tous tout de suite. Mais d'autant que la Chine a grandement besoin de redorer son luxe globalement, son image après ce qui s'est passé autour du virus. Ça, c'est sûr. Après, ok, éventuellement, ils peuvent débloquer un premier versement, mais alors ça voudrait dire que pendant des années, les Chinois vont venir au secours de Mediapro, parce que quand vous partez dans un deal économique de guingois sur le premier versement comme ça que vous butez, ça veut dire que les suivants ne viendront pas, Christian.
Et surtout, c'est pas le même groupe, mais il y a quand même un précédent avec les Chinois, avec nos amis anglais, qui date d'il y a quelques mois à peine, sur le non-règlement de droits internationaux, et ça s'est réglé par un contrat qui a été cassé, une redistribution des droits, évidemment à la baisse. Donc je pense que pour l'instant,
sauf que là on est dans la politique
aujourd'hui,
Philippe.
La principale hypothèse qui quand même s'élève, c'est à un moment donné une redistribution de ces droits, parce qu'on est allé quand même très loin en très peu de temps dans la confrontation, donc on voit difficilement quand même comment ça peut revenir en arrière, tout est possible, mais bon. Et ce sera forcément à la baisse. Et pour l'instant, les autres acteurs comptent les points. Comme l'a dit tout à l'heure justement Sébastien, il y a quand même eu de gros contentieux la saison passée, et le sentiment, au-delà des affaires de gros sous, que ces gens qui sont fidèles globalement au football français depuis une vingtaine d'années ont été quand même un peu traités avec un revers de main, donc il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau.
La seule chose, c'est que, parlons de Canal+, Canal+, si il devait reprendre les droits, aurait quand même tout intérêt à ce que le football français ne s'effondre pas totalement. Et donc, aurait intérêt à ce que les équipes demeurent compétitives. Donc, ils vont pas arriver avec 200 millions d'euros. Il faut espérer que la somme que Canal+ était prêt à mettre à l'époque, c'est-à-dire autour de 600, je crois, 600 millions d'euros, un peu plus.
600 millions pour avoir tout.
Hein. Oui, deux petits essais côté rugby.
Le rugby, Jean-Michel Rascol, la finale, Jean-Michel.
Deux petits essais côté rugby. Le premier pour relancer le Racing avec Simon Zebo à nouveau, puisqu'il avait marqué en première mi-temps, 21-17, mais dans la foulée, sur le renvoi, eh bien, essai sur interception d'Henry Slade, le trois quarts centre qui avait failli être expulsé tout à l'heure. Et donc, les Anglais qui reprennent largement l'avantage, puisqu'avec la transformation, ils mènent désormais 28-17, le tout après 47 minutes de jeu.
Merci Jean-Michel. Sébastien Tarago, donc il faudrait
non,
que
Canal faudrait espérer que. Je pense que si jamais Canal Plus devait reprendre ses droits, je pense qu'il ne ferait pas non plus une proposition indécente.
Alors, je vous donne deux autres informations. Des dirigeants très haut placés de Canal ont été vus à la Ligue du football professionnel vendredi. Et deuxième info, parce que celle-ci, quand même, elle a alimenté nos conversations tout au long de la semaine. Il n'y avait pas de caution bancaire. Mais il n'y avait pas de caution bancaire à l'époque des contrats avec Canal et Bein. Et
la seule chose, c'est que
je peux vous dire que le cabinet d'avocats Clifford a pris 30 minutes pour expliquer aux dirigeants, au comité de pilotage, 30 minutes pour expliquer que le contrat avec Mediapro était, je cite, béton.
Oui, mais Christian, tout ce que vous dites.
Il y a quelques mois. Sauf que dans la foulée, les juristes de la Ligue et les financiers de la Ligue sont allés à Londres pour essayer de négocier une couverture de non-règlement des premières traites, tellement ils avaient confiance.
Et la prime d'assurance leur ayant paru délirante, ils ont abandonné en route.
Voilà. Mais tout ce que vous dites, il ne faut pas penser que tous les dirigeants français sont totalement idiots. Effectivement, tout ça, ils ont vérifié. Ils ont des cabinets qui coûtent très cher, qui ont étudié ça. Ils ont le cabinet Clifford Chance aussi, qui a vérifié tout ça. Et je crois à tout ce scénario-là. Le seul problème, moi, qui ne me rassure pas, c'est que le football français, visiblement, depuis mi-septembre, sait que Mediapro ne paiera pas. C'est que s'ils ont accepté la médiation avec le tribunal de commerce en se mettant sous mandat ad hoc, c'est qu'ils se sont rendus compte que finalement, tout ça, c'était une belle histoire, un beau conte de fées, mais que l'argent n'arriverait jamais. Sinon, ils n'auraient jamais accepté cette médiation. Et quoi qu'il arrive, que ça débouche bien avec les Chinois ou que ça se débouche avec Canal, ça sera 40% de moins de droits.
Ouais.
Et pourtant, et ces 40% ont été dépensés. Soit en entissant des transferts, soit en mettant des...
Ça peut être dégressif aussi.
Dégressif.
Il y a des possibilités, en fait, d'essayer sur la première saison pour amortir le choc, de donner peut-être pas autant. Mais Philippe, par contre, sur les trois saisons suivantes, puisqu'on parle quand même d'un contrat de 4 ans, que là, pour le coup, on baisse en étant
endetté aux alentours de 500 à 600 millions d'euros.
Mais complètement. Non, mais c'est de toute façon...
c'est une catastrophe. Il faut le dire aux gens, parce qu'on parle que de gros sous, de contrats d'entreprise, de Chine, d'Espagne, de France. Mais c'est juste pour rappeler aux gens que tout ça aura une incidence sur les joueurs qui seront sur le terrain et sur la qualité des joueurs.
Et sur le spectacle
déjà
qui
pas
sera
terrible,
retransmis
mais
ou pas,
sur la
et sur le spectacle qui sera aussi retransmis ou pas sur la télévision. C'est une passe décisive. Gilles Verdet, vous n'avez pas l'air de satisfait de la réponse de Sébastien.
Je suis pas du tout d'accord.
Mais attendez. Derrière 19h...
Moi, tu penses que Messi va venir, du coup?
Derrière 19h, on évoquera le baromètre Odoxa, justement, et comment les Français perçoivent ce clash entre Mediapro et le football français, et comment ils espèrent pouvoir, ou pas d'ailleurs, voir les matchs à la télévision, et combien de budget ils peuvent mettre par mois. L'étude proposée par Odoxa est très, très intéressante.
Et pas rassurante, encore une fois.
Les premiers messages sur le compte, notamment @RTLFoot avec Baptiste Durieux.
Le message de Pierre qui nous dit tout simplement que c'est mort pour Mediapro. Comment peut-on imaginer une seule seconde que Mediapro, avec toute cette publicité négative, puisse s'en sortir? Ils vont rester à leurs quelques milliers d'abonnés, voire en perdre. Qui voudrait s'abonner à une chaîne qui risquerait de disparaître dans les prochains mois, nous dit Pierre. Et puis Nicolas, je ne veux pas m'énerver, mais j'ai vraiment envie de crier la LFP qui s'inquiétait de difficultés financières du diffuseur, a malgré tout refusé de prendre une assurance. C'est dingue. Et puis beaucoup de nos auditeurs aussi, Christian, réclament la remise de l'église au milieu du village. Je sais que vous appréciez l'expression, c'est-à-dire le retour de Canal et de Bein Sports.
Le débat se poursuivra sur Mediapro Foot français avec Odoxa après les informations de 19h. Le match, la finale de Coupe d'Europe, me semble relancée. 28-22 actuellement entre Exeter.
Est-ce qu'il va être accepté, laissé?
Eh bien, on le saura dans le flash de 19h. Excellente idée, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
Les informations de 19h. Avec Sébastien Houxelles. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. L'Élysée l'annonce ce soir, l'hommage national à Samuel Paty aura lieu mercredi prochain. De nombreux Français se sont rassemblés dès cet après-midi pour témoigner leur émotion 24 heures après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à ce professeur d'histoire. C'était le cas à Rennes, à Nice et bien sûr à Conflans-Sainte-Honorine. Un millier de personnes se sont réunies devant le collège du Bois d'Aulne où il travaillait. Plusieurs associations et syndicats ainsi que Charlie Hebdo appellent à un rassemblement demain à 15h, place de la République à Paris. Du côté de l'enquête, une certitude ce soir, l'acte était prémédité. Un message de revendication écrit 5 heures avant l'attaque a été retrouvé dans le téléphone de l'assaillant, un Tchétchène de 18 ans abattu par la police. 9 personnes sont toujours ce soir en garde à vue, notamment un militant islamiste bien connu des renseignements. Il avait accompagné début octobre le père d'une élève au collège du Bois d'Aulne. Tous deux avaient alors demandé la démission de l'enseignant pour avoir montré des caricatures de Mahomet nus lors lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le père avait également publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il nomme le professeur et donne son adresse. Il a lui aussi été placé en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, la fin des soirées entre amis, en tout cas pour 20 millions de Français, et cela jusqu'au 1er décembre. Le couvre-feu est entré en vigueur. Interdiction donc de sortir de chez soi après 21h et jusqu'à 6h du matin, sauf exception. Vous devrez alors vous munir d'une attestation comme au temps du confinement. Elle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Exeter Racing 92, c'est l'affiche en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le match a commencé à 17h45 à Bristol et les Anglais sont toujours devant, Jean-Michel Rascol.
53 minutes de jeu, effectivement. Les Anglais devant, 28 à 24. C'est Kaimi Chatt qui vient d'inscrire l'essai qui permet aux Parisiens de recoller quelque peu au score. Déjà, on peut dire que ce sera la finale la plus prolifique de l'histoire de la compétition, puisqu'avec 8 essais après 50 minutes de jeu, eh bien, en termes d'essais, on s'est régalé. Les essais franciliens ont été marqués par Zebo à deux reprises, par Roanimoff et puis par Camille Chatt, effectivement, il y a quelques instants, pour laisser la flamme au Racing, cet espoir qui peut les inciter, ces joueurs du Racing, à revenir dans cette partie et pourquoi pas l'emporter sur le fil.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Du foot et la suite de la 7e journée de Ligue 1, Lorient a renversé Reims et s'impose 3 buts à 1 au stade de l'Aune. Ce soir, Marseille reçoit Bordeaux, coup d'envoi à 21h, confrontation à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1 avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Le temps demain, très nuageux sur le nord et le nord-est avec un peu de pluie au nord de la Seine. Le ciel sera mitigé sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse. Du soleil, en revanche, sur le reste du pourtour méditerranéen. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 1 et 6 degrés. Dans l'après-midi, comptez 11 à 16 sur la moitié nord, 16 à 22 dans la moitié sud. RTL, 19h04, on continue à refaire le match sur RTL avec Christian Olivier.
Prochaines informations à 20h.
À tout à l'heure.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h en compagnie de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez, Karine Nedjari, sans oublier évidemment la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Une petite photographie d'ailleurs sur cette finale après 56 minutes de jeu, Jean-Michel Rascol.
Eh bien 28-24, il reste très exactement 24 minutes dans cette finale. On a longtemps cru que les joueurs parisiens allaient être dominés puisque coup sur coup les Anglais marquaient 4 essais. Et puis petit à petit ils ont d'abord répondu et puis surtout ils sont arrivés à venir jouer dans le camp de l'adversaire, ce qui n'était pas facile depuis le début du match. Et on a changé, c'est peut-être important, le demi de mêlée puisque Teddy Iribarren, qui avait été très très mal inspiré depuis le début de la partie, a très vite laissé sa place à Maxime Macheneau. Ça va mieux, mais c'est loin d'être gagné.
28-24 en effet pour les Anglais. Match de 17h en Ligue 1, victoire de Lorient à Reims sur le score de 3 buts à 1. Nous étions avec l'affaire Mediapro et le football français. Messieurs, nous avions prévu, mais on parlera également de Mbappé, bien sûr. Est-ce qu'il peut jouer un match en 48 heures, c'est l'un des sujets du soir. Pogba est-il le meilleur milieu du monde? Corinne Diacre et Lyon, rien ne va plus. Il y a également les questions tir au but hein, entre 19h45 et 20h.
Celle qui terrifie mes collègues.
Mais vous savez que c'est un concept unique parce que dans n'importe quelle émission sportive et politique, tout le monde est au courant des questions et des thèmes. Sauf dans Refait le match, dans le dernier quart d'heure, vous n'êtes pas au courant des questions que je vais vous poser. On verra si vous avez le mental pour y répondre et pour arracher le micro à votre voisin.
Mais on connaît aussi des journalistes qui ne préparent pas les émissions, qui viennent les mains dans les poches aussi.
Pourquoi vous me regardez
comme ça? Non, pas vous, pas vous. On voit certains consultants. On voit bien que tout est préparé, Christian.
Bon, le sondage Doxa concernant justement la consommation faite par les auditeurs également, qui écoutent RTL, mais qui regardent les matchs à la télévision, par nous-mêmes qui sommes passionnés. Alors, ce sondage Doxa donne des chiffres assez intéressants et là je m'appuie sur mon tuteur Philippe Sanfourche car il sait qu'en matière de chiffres, je ne suis pas au sommet de ma forme. Alors 13% des Français sont abonnés à au moins une chaîne payante. Donc parmi des chiffres très faibles, je trouve quand même que celui-ci est
mais 13%. La réalité en fait, c'est qu'aujourd'hui vous avez 30%. Des gens qui continuent d'aimer regarder du football à la télé, la population totale,
oui,
hein,
mais
30%.
En clair, il n'y a pratiquement rien.
13% via un abonnement à une chaîne payante, et le chiffre descend à 5% quand il s'agit d'être à un multi-abonnement, c'est-à-dire un minima de.
Donc on parlait du championnat. En clair, c'est l'équipe de France, c'est TF1 et CM6.
Oui.
On est d'accord.
Oui, tout à fait. Sur des matchs quand même.
Je peux juste préciser aussi que plus vous descendez en âge, moins il y a d'abonnements. C'est-à-dire que la nouvelle génération ne regarde plus les matchs en entier. Et donc, il le concerne. Ça aussi, c'est très important. Mediapro n'a pas compris cette idée-là. C'est qu'aujourd'hui, le football, on le consomme un petit peu par extrait. Voilà, c'est pour ça que l'abonnement free, finalement, fait un carton.
Oui,
parce qu'on peut regarder, on peut regarder ça, le match, par extrait. Mais on ne regarde plus 90 minutes. C'est trop long
ça
pour
dépend,
la nouvelle génération.
Il y a aussi le fait de streamer, comme on dit aujourd'hui.
3%.
Ouais,
bah, 3%.
Alors, mais je parle pas, je parle
3% des Français.
Qui avoue.
À vous.
Ouais, voilà, il y en a un peu plus peut-être.
Ah, je peux vous donner un chiffre, par exemple, sur RMC. Lorsqu'il y avait un match Liverpool-PSG, il y avait 800 000 personnes qui regardaient le match, qui étaient abonnées. Savez-vous, les gens d'RMC ont estimé à combien il y avait de stream.
RMC TV, on est
ouais, RMC TV. Hein. 800 000 personnes.
Ouais, c'est au moins autant.
Ah, en abonnement, comment dirais-je, dissimulé.
Donc 1 600 000 personnes à consommer le match, mais 800 000
autant,
à avoir
autant, voilà.
Gilles Verbeil.
C'est énorme, 13%. Vous avez l'air de trouver que c'est faible, mais c'est énorme.
Non, mais là, je vois venir le contre-pied.
13% des gens.
C'est
qui...
très faible. C'est très, très faible.
Mais vous rigolez, franchement. Bah 13% non, des gens qui payent ce prix-là pour ce spectacle-là. C'est extraordinaire.
Ah non, là, vous êtes dans le commentaire. Mais non, factuellement, mais, 13%,
mais
c'est pas
énorme,
viable. C'est pas
mais,
viable.
Mais ce sont des prix pour les ménages aujourd'hui, dans la crise que nous vivons. Ce sont des prix, je suis désolé, qui nécessitent un vrai investissement de la part d'un ménage.
20 euros. En moyenne, les Français sont prêts à consacrer 20 euros pour avoir accès à du football crypté.
Ce qui est un budget conséquent pour la plupart des ménages. Quand vous parlez à des gens, à des ménages français aujourd'hui, vous leur dites, êtes-vous à 20 euros près, tout le monde va vous dire oui, vous avez des millions de gens qui le 15 du mois n'ont plus d'argent, Christian. Que 13% de ces gens investissent déjà sur un abonnement, moi ça me semble considérable.
Ben moi je trouve que ces chiffres soulignent le faible potentiel du marché français. Je trouve que c'est très très faible.
Mais c'est sur cette base-là que les gens de Canal, à chaque fois, calculent un petit peu ce qu'ils veulent investir dans le football français. Quand ils pensaient investir jusqu'à du temps de Bertrand Meheux, c'était 600 millions d'euros, le plafond de verre, quoi.
C'est déjà bien, ça devrait être parce déjà que, énorme pour le football.
Parce que tout ça est mathématique, hein, de toute façon.
Encore une fois, je suis très pessimiste, mais si on pouvait revenir à la raison, je ne dis pas que les joueurs de foot doivent tous gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, mais si on pouvait juste revenir un tout petit peu à la raison, est-ce qu'on serait plus malheureux? Je ne crois pas. Est-ce qu'eux seraient plus malheureux?
En l'occurrence, c'est un autre débat.
Ah bah non, il est
mais
quand
non,
même
c'est
totalement
le même
corrélé, puisque tout
c'est le même débat
aujourd'hui.
Mais puisque, puisque ce débat-là, en Angleterre, en Première Ligue, il y a une ou deux saisons.
Moi, c'est un discours que je tiens depuis longtemps, parce que je trouve ça absurde. Moi, je suis favorable. C'est normal
c'est
que
l'offre et la
ces
demande,
gens-là,
c'est... Sébastien.
Mais,
oui, c'est
mais la preuve en est qu'on est la preuve en est
dans un colcos.
Mais la preuve en est que nous sommes sur une économie qui ne fonctionne pas. Ah oui. La preuve en est. Donc c'est absurde.
Mais parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle Covid-19.
Mais c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Combien le Bein Sport a perdu combien d'argent depuis son arrivée sur le marché en 2011?
Quasiment 2 milliards.
C'est pour ça
que ça fait beaucoup d'argent.
C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais. Ce n'était pas possible que quelqu'un paye 1 milliard d'euros pour le football français. Donc dès le début, savaient que ce n'était pas vrai, mais que c'était virtuel. Jamais ils auraient payé. Et vous parliez de l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui? Ils sont en train de travailler sur un modèle au match. Les gens vont acheter un match pour le voir en famille. Alors certes, ils vont l'acheter assez cher, mais un match. Les gens ne pensent plus en abonnement global sur une saison, plein de matchs. Ils vont choisir leur moment. Voilà.
Mais par contre, c'est cher. 17 euros le match.
Et les supporters anglais ne sont pas heureux.
Non, mais c'est un modèle que vous allez voir qui va se pérenniser.
C'est quand dans ce monde fou du football, parce qu'il faut bien avouer ça, il y a des choses qui ne peuvent plus marcher. Quand on voit par exemple que Mesut Ozil, qui ne joue plus depuis 2 ans, va toucher une prime de 9 millions d'euros, c'est plus possible aujourd'hui là-dessus. Je vais donner un autre chiffre pour bien marquer les esprits. C'est un président de club qui m'expliquait ça. Si vous prenez la recette de tous les matchs, des 380 matchs de Ligue 1, admettons que les stades soient pleins, la recette de tout ça part dans les poches des agents de joueurs. Rien qu'en prime.
Et ça, attention, les dirigeants sont les premiers responsables de ça.
Oui,
bien sûr.
Ah oui. Non, mais voyez comment cette folie, cette absurdité
mais
ne peut
sûr,
pas continuer
c'est
plus
absurde.
Longtemps.
C'est devenu absurde. Donc, on pourrait souhaiter de revenir à la raison. Et moi, je ne suis pas, comme vous le disiez, pour le colcos, mais je suis favorable à ce que les artistes, je considère que les joueurs de football peuvent être comparés parfois à des artistes avec des talents immense puisse être beaucoup mieux payé que la moyenne des gens. J'ai aucun problème avec ça, aucun. Mais entre 100 millions d'euros pour Lionel Messi par an et 10, je pense qu'on peut tomber d'accord.
Deux autres résultats de nos amis d'Odoxa. Vraiment, ce baromètre, je vous encourage à le consulter, est vraiment très, très intéressant. La Ligue doit-elle accepter de négocier avec Mediapro pour les amateurs de football? Oui à 47%.
Et non à
52%. voilà. 1% ne se prononce pas.
Bon, je suis d'accord avec ça. Faut pas négocier, parce que en fait, il y a rien. Comme c'est rien, il faut repartir. Il faut casser le contrat, si possible. Repartir pour quelques matchs sur des négociations de gré à gré et essayer de refaire un contrat. Et moi, je suis pas d'accord avec Sébastien quand il dit on risque la catastrophe. Le football français risque la catastrophe. Non, il risque de repartir sur des bases saines, parce que là, c'était pollué. L'argent n'existe pas.
Je vous le dis, c'est peut-être simpliste comme expertise, mais sur de bonnes bases, entre nous, entre frontières, mais par rapport aux Allemands. Par rapport aux Allemands.
Le foot français qui était déjà fragilisé structurellement, économiquement, est le premier peut-être à être impacté par cette explosion.
Évidemment.
Donc il va être le premier à en payer la note.
Bah, il faut accepter que les grands
talents partent. Qu'est-ce qui va se passer? Les clubs vont être au bord de la faillite, donc il va y avoir une fuite des joueurs au prochain mercato. Sauf que, évidemment, c'est un petit peu comme la situation avec les droits. Les acheteurs, connaissant la situation dramatique des clubs français, vont venir piller à moindre coût.
Après, ce sera uniquement pour se débarrasser de salaire. On n'en parle pas en France en ce moment, mais au FC Barcelone, on demande, enfin, les dirigeants veulent que les joueurs acceptent une baisse de salaire. Donc la situation, elle est aussi très difficile hors de nos frontières. Et je pense que de toute façon, il n'y aura pas d'autre issue. À un moment, tous les salaires vont baisser. Ce ne sera pas possible autrement.
Dernier résultat, Odoxa, c'est inquiétude pour l'avenir.
Un petit tour au rugby, Christian.
Oui, Jean-Michel Rascol.
Un coup de pied de Maxime Macheneau ramène le Racing à 1 point, 28-27, toujours pour Exeter. Mais cette fois, le Racing est vraiment sur le point peut-être de prendre les devants dans cette finale. Il reste très précisément 16 minutes de jeu dans cette finale entre le Racing et les Anglais d'Exeter.
Et si le suspense est maintenu dans les dernières minutes, mais si on cassera un peu le conducteur tout de même. On refait le match pour donner la priorité au rugby avec Jean-Michel Rascol, vous le comprendrez assez facilement. Inquiétude pour l'avenir du football français? Oui pour 63% des fans de football, oui pour 46% des amateurs de... les fans de football et les amateurs de...
Ce chiffre démontre que plus on est connaisseur du football et plus on est inquiet. Voilà, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes et voient bien qu'on est en train de se confronter à une situation inextricable.
Ouais. Bon, ben voilà, messieurs, pour ce débat Mediapro football français. Alors, vous parliez de nos amis de BMW et vous compariez la BMW. Quand j'achète une BMW, je l'achète avec 4 roues. C'est bien cela, Sébastien Drago?
Je peux parler de Renault, d'Acia, si vous voulez. Moi, je veux pas de problème.
C'est pas hasard si vous jouez ici.
Voilà. Réponse très simple.
J'ai un scooter.
Du président du directoire de BMW sur Twitter, qui s'adresse à toute l'équipe de RTL Foot. Une BMW se vend toujours avec 4 roues, sauf lorsqu'il s'agit d'une moto.
C'est livré avec 4 roues.
Et vous savez quoi? C'est pour ça que les clients payent rubis sur l'ongle, contrairement au football français.
Et vous avez eu raison de citer. Oui, d'accord. Il fallait citer également deux autres marques.
Voilà, on va plutôt citer Mercedes et Audi, parce que
il aura sa ristourne.
Il va falloir donner les 90% restants.
La publicité avant la pub ou les messages ou la Ligue 2 qui a démarré depuis un quart d'heure tout de même avec Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste, bonsoir.
Rebonsoir, et oui, la Ligue 2, effectivement. Un but inscrit pour l'instant par Le Havre face à Châteauroux, 1-0 et 0-0 sur les autres pelouses. Les affiches: AC Ajaccio, Toulouse, Nancy, Dunkerque, Rodez 3, Amiens, Grenoble, Niort-Caen et Paris FC contre Pau. A noter que Valenciennes et Sochaux se sont neutralisés cet après-midi sur le score de 0-0.
Merci, il nous reste encore une petite 45 minutes, on va dire, pour arrondir. 45 minutes de débat, on va faire des micro-débats. Mbappé, Pogba, Corinne Diacre et les tirs au but attendus avec beaucoup d'impatience par Gilles Verdez. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Ouais, il vient de mettre 19h19, on refait le match avec Gilles Verdez, Karim Nedjari, Sébastien Tarago, Philippe Sanfourche, le rugby, finale de la Coupe d'Europe, etc. contre le Racing 92 au commentaire. Jean-Michel Rascol.
28-27, il reste 11 minutes dans cette finale avec le Racing là, qui a profité d'un bon ballon pour venir jouer chez l'adversaire, mais à chaque fois il bute sur ce mur anglais qui s'est fissuré à quelques reprises, mais qui tient solidement pour l'instant la Coupe d'Europe. Un point d'écart, 28-27, il reste 11 minutes. Eh bien, il faudrait être sacré chanceux et visionnaire pour savoir qui va gagner.
28 pour les Anglais, bien sûr. À tout de suite, Jean-Michel. Alors, Kylian Mbappé, match tous les deux jours. Est-ce que c'est possible, finalement, match tous les deux jours? Il y avait un débat, une petite musique, même dans On refait le match samedi dernier, puis également dans nos émissions de foot, où les choix de Didier Deschamps par rapport à la Croatie, le Portugal, puis le match contre Nîmes. Finalement, il a enchaîné deux matchs en 48 heures. C'est donc possible. pour Kylian Mbappé.
C'est une mauvaise jurisprudence.
Ah bon ?
Moi, je suis pas content.
Gilles Verbez.
En fait, vous voyez que les joueurs tombent les uns après les autres. Il y a eu Van Dijk aujourd'hui à Liverpool, De Bruyne qui disait on peut plus les cadences infernales et qui s'est blessé, qui est absent avec Manchester City aujourd'hui. Mbappé, c'est un phénomène. C'est un phénomène musculaire, un phénomène de précocité, un phénomène de talent. Mais il peut pas donner l'exemple. Si aujourd'hui, on va dire maintenant, ah ben il y a pas de problème, les joueurs reviendront de sélection, ils prendront un avion privé, ils joueront après un petit décrassage, ça va tomber comme des mouches, si
alors,
je puis dire.
Alors tout à l'heure, on disait que les joueurs étaient surpayés, etc.
Non, ça n'a rien à voir. Les cadences infernales auxquelles on les soumet, ils vont tous tomber les uns après les autres. Donc moi, j'aurais préféré qu'Mbappé ne joue pas, même s'il est merveilleux.
Et puis la petite musique, comme vous dites, qui date après de l'après-match. Match, parce qu'il a mis un doublé, et à mon avis aussi absurde. C'est-à-dire que bien sûr qu'il est capable de mettre un doublé dans un match de Ligue 1 après avoir joué deux jours avant. Mais le problème, ce sont les conséquences. Pardon, excusez-moi.
À vos souhaits, non, c'est...
Non, j'ai une petite toux.
Comme gravité, bon président. Sans gravité.
Geste barrière. Absolument. Mais c'est absurde parce que ça a des conséquences sur le long terme. Si vous jouez comme ça tous les deux jours, sachant qu'il va jouer en Ligue des Champions en milieu de semaine, c'est une catastrophe.
Alors les mauvaises langues vous diront en même temps qu'il ne l'a fait qu'un match, c'est celui contre Nîmes, hein, et pas celui contre le.
Oui, c'est un peu facile.
Mais là, on parle de.
Après, le débat se pose quand même, à mon avis, parce qu'on est sur une tendance. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout ça se passe de manière concomitante avec l'instauration des 5 changements, par exemple, dans lors d'un match. C'est-à-dire qu'on est sur un glissement où, en fait, les joueurs pourraient jouer plus souvent, mais peut-être moins longtemps. Un petit peu comme, et pourquoi pas après en arriver, c'est parce que chouette, hein, mais je veux dire, on est sur une logique un peu comme dans le rugby, avec des changements temporaires, avec des joueurs qui seraient plus impact player. Non mais c'est ça
pas
qui
toi,
se profile
Philippe,
derrière.
Pas
des
changements temporaires, pas toi.
Mais c'est
déjà...
pas une préconisation, Christian, c'est juste un constat par rapport à une tendance.
Mais faut le combattre, un glissement.
Donc faut pas que les joueurs jouent tous les deux jours. Moi, parce que Mbappé, il a joué 84 minutes hier quand même. Hein.
Moi, le problème, c'est pas Mbappé, c'est Tourelle. Pourquoi Tourelle le fait jouer hier? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'Mbappé? Est-ce qu'il craint vraiment ce déplacement à Nîmes,
ben oui,
qui est privé de la moitié de l'équipe pour ça?
Il le craint.
Donc ça veut dire que c'est ça qui l'enseignement sportif et journalistique, il est là plus que ça.
Oui, moi je
c'est
comprends.
Pourquoi il le fait jouer.
Mais Tourelle, il pense à lui.
Il pense à lui.
Il est en grande difficulté. Il est en opposition frontale avec son directeur sportif. Il peut pas se permettre de perdre.
Non, mais c'est ça qui est important.
Il a un nombre d'absents considérable. Il se dit non mais attends.
Mais avec
moi,
une équipe, Sébastien, avec une équipe quand même avec 10 internationaux hier. Mais s'il a peur d'aller jouer à Nîmes,
il met auto Neymar. Il se dit sans Neymar et Mbappé, je suis trop diminué. Je risque un match nul. C'est ça.
Il a pas Neymar, il a pas Marquinhos, il a pas.
C'est ça, c'est important.
À mon avis,
mais après, il faudra pas qui viennent se plaindre, parce que je pense pas en ce moment, finalement, depuis 6 mois, Mbappé a pas beaucoup joué. Donc je peux comprendre que le joueur ait envie de jouer, puisqu'il adore le football, et tant mieux qu'un footballeur aime le football. Mais moi, ce qui me
crains
le plus, c'est dans 2 mois ou dans 3 mois. C'est là où il va payer, parce que, en fait, le match en lui-même ne suffit pas. C'est aussi le déplacement, la nuit qu'il passe dans l'avion, le soir quand il va se recoucher à 5h du matin.
Bien
c'est
sûr.
Ça, c'est la récupération aujourd'hui.
Est-ce qu'on pouvait pas poser la question un petit peu à l'envers? Est-ce qu'on pouvait pas imaginer Didier Deschamps lui faire jouer un temps de jeu un peu plus réduit? Je pose la question.
Ah non, mais Christian, c'est les rares semaines dédiées aux sélections nationales qui, pour moi, priment de 1000 degrés sur l'échelle du football.
À une nuance près.
Vous avez l'équipe nationale et le club, pour moi, tout en bas. C'est sacré, l'équipe nationale. Si les sélectionneurs.
Mais bon.
Mais à une nuance près, Gilles, quand même. C'est que là, pour le coup, la Fédération française de football a décidé de mettre 3 matchs en octobre, 3 matchs en novembre, et là encore, que pour des considérations financières et au mépris de la santé des joueurs. D'habitude, il y a 2 matchs et c'est largement assez. Là,
c'est pas unilatéral, c'est légal. C'est acté par des règlements.
Tout est légal, mais le faire jouer à Nîmes, c'est légal aussi. Mais en revanche, mettre 3 matchs en octobre, 3 matchs en novembre, on peut pas non plus dire que tout est de la faute des clubs.
Oui, mais
là,
c'est
dans ce
une séquence internationale autorisée, mise en place par la Fédération internationale
si
de football.
Parler,
non, mais il y a 2 matchs d'habitude, là, ils en ont fait 3. C'est absurde aussi. Ils ont fait leur premier match, par exemple. Ils l'ont fait. Ils avaient un entraînement ou un demi-entraînement dans les jambes. C'est scandaleux aussi. Après, chacun essaye de minimiser la catastrophe actuelle. La Fédération française aussi, elle y parvient plutôt bien parce que Noël Le Graët a navigué là-dedans en pensant à ses intérêts. Mais la réalité, c'est ça. C'est que il y a eu 3 matchs en octobre, 3 matchs en novembre sur la même durée où d'habitude il y en a 2.
Mais c'est parce qu'il y a d'autres fenêtres qui ont été fermées. L'équipe de France a quand même le droit de jouer.
Pour une raison
de pandémie. L'équipe de France a quand même le droit de jouer.
On en parlait avec Mediapro tout à l'heure, on en parle avec Mbappé. Il n'y a pas de raccourci, mais on vit quand même une année particulière, les amis.
Oui, mais il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et les gentils ne sont pas non plus à la Fédération française de football. À la Fédération française de football, on a décidé qu'il y aurait 3 matchs en octobre, 3 matchs en novembre. Et pardonnez-moi, mais c'est un peu scandaleux.
Mais on n'a pas décidé. Il y a 3 séquences internationales proposées par la Fédération internationale de football. En acceptant de remplir ces 3 séquences, mais Christian, en quoi la Fédération française serait...
Christian, mais là, je sais pas comment vous comprenez, je ne dois pas parler français. Mais il y a un moment, depuis 20 ans, en octobre, il y a 2 matchs. En novembre, il y a 2 matchs.
Depuis 20 ans,
c'est
la pandémie.
Il y a peut-être une raison quand même, Christian. C'est peut-être que ce n'est pas raisonnable de jouer 3 matchs sur cette période. Quand même,
mais on n'a pas joué avant. Mais alors la France joue plus. Alors selon vous,
elle joue deux matchs. Mais le championnat. Alors
on fait pas un championnat. On fait pas un championnat avec 55 journées parce qu'on n'a pas pu jouer les 10 dernières.
Vous êtes quand même bizarre, je trouve que vous bradez l'équipe de France d'une manière un peu scandaleuse.
Même toi, tu penses pas ce que tu dis.
Mais évidemment que si.
Non, mais moi c'est ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est le match contre Manchester United dans 2 jours, de savoir dans quel état va être Mbappé. Et si Mbappé se pète lors de ce match-là, il faudra pas chercher où.
Ah oui, mais c'est trop facile. Vous attendez de voir pour juger après.
Mais non, je t'en passe. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on juge. Et ce qui est terrible, c'est qu'on dit, ah, il a bien fait Tourelle parce qu'il a marqué Mbappé a marqué 2 buts, donc ça justifie le traitement quasiment de la santé de Mbappé. Non. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts que Tourelle a raison de le gérer comme ça. Au contraire, peut-être. Même un match nul à Nîmes. Mais là, ce que moi je vois surtout, c'est une chose, c'est que Tourelle a peur. A peur en ce moment d'un match nul contre une équipe B de Nîmes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé, par rapport à il y a un an ou deux, et notamment ce qui avait précédé le match face à Manchester et le match retour, où il avait beaucoup joué également en Ligue 1, parce qu'il y avait déjà des absences, il n'a plus le même statut aujourd'hui au Paris Saint-Germain, et d'ailleurs en équipe de France non plus.
Et il voulait jouer.
Et voilà.
C'était mais il veut toujours aujourd'hui, jouer. Les joueurs
c'est comme Neymar.
Non.
Neymar, il n'avait pas envie de jouer à Nîmes. Hein. Il n'a pas insisté. Si Kylian Mbappé, d'un commun accord avec le club, et tout ça en interaction avec Didier Deschamps et la sélection avait dit moi je veux faire l'impasse à Nîmes, il aurait fait l'impasse à Nîmes. C'est-à-dire que, et probablement qu'il a dû négocier sur l'après.
Mais
l'après
c'est ça d'être un vrai coach, c'est de dire à Kylian Mbappé, même avec ton statut, moi je te veux fort en février et en mars.
Il faut aussi écouter le ressenti du joueur. Peut-être que là il se sent fort.
Je pense qu'il faut l'aider parce que je trouve qu'on l'écoute beaucoup Mbappé.
Messieurs, 28-27 toujours, 73 minutes de jeu dans un instant. Jean-Michel Rascol, avant la publicité, vos messages car l'émission est filmée 100% interactive sur RTL.fr via l'application. Je vous conseille l'application toute nouvelle de RTL. Il y a également le compte @RTLFoot Baptiste Durieux.
Tout à fait Christian, et Laurent qui nous dit sur Mbappé, bien sûr qu'il pouvait jouer contre Nîmes, il a simplement fait des pointes de vitesse à 90 km/h au lieu des 95 habituels, message de Ryan, c'est inhumain, sauf que Mbappé l'est aussi, du coup il ne se blesse pas, il marque un doublé, message d'Etienne, à moins de passer sa vie en cryothérapie et se faire masser les muscles toute la nuit et dormir pendant 48 heures, c'est impossible pour un joueur et pour un être humain d'enchaîner comme ça, j'espère que Mbappé ne servira pas d'exemple. Et puis Mathieu qui nous dit, les joueurs sont certes payés en conséquence mais sont devenus des robots marketing au service d'un diffuseur, d'une fédération et d'un business. La terre entière le dit, il y a trop de matchs par saison. Moins de matchs serait plus normal et surtout, on gagnerait en qualité.
Toutes les remarques sont pertinentes et elles sont également audibles, cher Sébastien Tarragon.
Absolument, mais ils sont aussi, otages d'eux-mêmes et de leur banquier quand même, les joueurs.
La Ligue 2, Baptiste Durieux avant la publicité. Non, la publicité d'abord et la Ligue 2 derrière, ensuite le rugby et puis Pogba, est-il le meilleur milieu de terrain du monde? Corinne Diac, rien ne va plus avec l'équipe de Lyon au féminin et les tirs au but.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
La Ligue 2 avec Baptiste Durieux, les résultats après 30 minutes de jeu.
Oui, 7 matchs à l'affiche, 1 partout entre Le Havre et Châteauroux et 1-0 pour Niort face à Caen, 0-0 sur les autres pelouses. AC Ajaccio, Toulouse, Nancy, Dunkerque, Rodez, 3, Amiens, Grenoble et Paris FC face à Pau. Et puis on le rappelle, Valenciennes et Sochaux se sont quittés sur un match nul, 0-0.
Résultat définitif bien évidemment dans RTL Foot entre 20h et 23h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin également. également. Coup d'envoi 21h à suivre dans son intégralité du match Marseille-Bordeaux. Plein de jolis rendez-vous sur l'antenne de RTL. Le rugby, avant de reprendre le cours de ce On fait le match, la finale de la Coupe d'Europe, Exeter, Racing 92. C'est toujours aussi serré, Jean-Michel Rascol.
Oui, il reste 3 minutes. Ce sont les Anglais qui mènent 28 à 27. Mais les Franciliens ont eu l'occasion de passer devant, ouais, une pénalité qu'ils ont choisi de ne pas prendre. Ils sont allés en touche en espérant pouvoir marquer un essai derrière. Effectivement, derrière, ils ont eu la possession du ballon. Klaassen a été à quelques centimètres de marquer, mais il n'a pas marqué. Et derrière, ce sont les joueurs d'Exeter qui ont repris le ballon pour venir jouer dans le camp des Franciliens. Il reste très précisément 3 minutes et ce petit point d'écart qui fait bien sûr une énorme différence.
Ils peuvent regretter, Jean-Michel Rascol, la façon d'avoir joué la pénalité.
Bah oui, mais on le sait qu'après, effectivement, ils ont eu l'occasion. La pénalité n'était pas facile à tenter car elle était excentrée côté gauche. Donc ils ont préféré la touche pour pouvoir développer une action, et cette action, malheureusement, même si elle a duré, même s'il y a eu énormément d'occasions, eh bien elle s'est arrêtée à quelques centimètres de la ligne. Anton Klaassen n'a pas pu aplatir sur la ligne et derrière les Anglais ont pu se dégager. Ce n'est peut-être pas fini, mais on reparlera longtemps de cette décision.
Et ça pousse, hein, ça pousse actuellement chez les Anglais.
Oui, ça pousse parce que la meilleure défense c'est l'attaque, et venir jouer dans le camp des joueurs du Racing, eh bien c'est se préserver au tableau d'affichage et de regarder surtout le chronomètre défiler en sa faveur. C'est ce qui se passe justement avec ces Anglais qui, d'une façon très méthodique, eh bien, avancent, font des petits tas et ne prennent pas de risques, mais conservent la possession. La possession, c'est, que ce soit d'ailleurs en football ou en rugby, l'élément clé dans un match. Et cette possession anglaise pourrait bien permettre à cette équipe d'Exeter, ce petit chef-lieu du comté de Devon, de remporter la Coupe d'Europe. Exeter, un tout petit club, hein, un club en tout cas qui n'a pas un gros palmarès, mais qui est leader du championnat d'Angleterre et qui en tout cas fait preuve d'énormément d'expérience avec pas mal d'internationaux des quatre continents, qui permet à cette équipe d'avoir donc de l'expérience et de garder, de conserver le ballon dans ces derniers moments, même si les joueurs du Racing là s'opposent, mais le ballon est toujours, la possession est toujours anglaise. On va pouvoir à nouveau faire des petits tas et on regarde le chronomètre, 78 minutes et 39 secondes au tableau d'affichage. Il faut absolument récupérer du côté du Racing. Alors on s'énerve un petit peu, on essaye de se mettre en opposition, mais les Anglais sont très fort à ce jeu pour conserver, pour arriver à venir un petit peu énerver l'adversaire qui ne peut pas mettre les mains sur le ballon. On rappelle ce score, 28-27, ce petit point d'écart qui fait la différence.
On a envie de rester avec vous, Jean-Michel, on a envie de rester avec vous. Il reste 60 secondes, possession de balle, elle ne sort pas, on a envie de rester avec vous. Est-ce qu'il y a... Attention, Jean-Michel.
Non, c'est pas terminé, mais on va rendre la balle aux Anglais. Il y a une petite faute du côté du Racing, une pénalité. Toujours est-il que, bien sûr, qu'ils vont prendre cette pénalité puisqu'il reste 50 secondes. Alors, soit ils vont en touche, soit ils tentent la pénalité. Les Anglais discutent pas mal. Il faudra jouer ce ballon de toute façon. Je pense qu'on va choisir avec Hoggs d'aller chercher une touche qui leur permettrait derrière d'avoir une possession, et puis on serait au-delà à ce moment-là des 80 minutes. Mais pendant cette décision, le chrono n'est pas arrêté.
C'est
donc
fou,
79e
ça.
Minute et 37 secondes.
J'ai jamais compris pourquoi on n'arrêtait pas le chrono.
Là, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'y a pas un fait de jeu qui permet de l'arrêter. Donc, sauf s'ils prennent trop de temps, ils vont tenter. Alors, ils ont pas mal discuté et ils vont tenter cette pénalité. On voit l'entraîneur, d'ailleurs, anglais, descendre les marches sans pour autant avoir sur son visage les mimiques de la victoire. Il y a encore un petit peu de stress et ce sera donc une tentative. Et là, ils sont pratiquement sûrs d'être vainqueur, puisque même si maintenant le chrono s'arrête, hein, une fois que la décision est prise, le chrono s'arrête, il reste très précisément 23 secondes dans ce match de temps effectif. Donc ils vont tenter la pénalité pour tenter de se mettre à l'abri, mais surtout derrière il restera 20 secondes. Alors on ne voit pas une attaque au long cours si jamais ce coup de pied échappait au poteau, hein. On pourrait toujours assister à une contre-attaque. Il reste quand même 20 secondes. On a vu, non pas dans l'historique de la Coupe d'Europe, mais on a vu des matchs à un niveau inférieur se jouer comme ça sur les tout derniers instants sur une contre-attaque. Mais je ne pense pas que Hoggs, compte tenu de sa réussite depuis le début de cette partie, je ne vois pas comment le demi d'ouverture et buteur pourrait se tromper ou en tout cas ne pas trouver les poteaux. Il faut rappeler qu'avec 8 essais, c'est la finale la plus performante de l'histoire, hein, 4 essais de chaque côté, mais il y a eu des transformations ratées du côté du Racing en première mi-temps qui font aussi la différence. Il n'y a pas que la décision, un coup de pied de 45 mètres qui va trouver, il n'y aura pas de regret à avoir, et qui va trouver les les potos. On peut dire maintenant que Exeter lève les bras 31-27 et c'est terminé. Ouais. L'arbitre va donner le dernier coup de sifflet de cette finale dans quelques secondes. Voilà, il discute quand même avec les Anglais car il reste, vous savez, l'arbitre Monsieur Owens, il est très pointilleux. Il aime bien que d'abord on écoute ses ordres et il aime bien surtout que le match soit terminé une fois qu'il a sifflé l'ultime coup dans son petit sifflet. Donc il va permettre à Russell, le demi d'ouverture de l'équipe du Racing, peut-être de remettre en jeu. En tout cas, il y a une explication qui n'est pas très claire puisque les 80 minutes de temps effectif sont terminées et qu'on peut considérer, Christian, car on ne va pas d'une façon interminable comme ça garder l'antenne sur le rugby.
C'est passionnant, puis c'est l'actualité. Pogba attendra, Corinne Diacre également.
On peut considérer que Exeter, cette petite ville au nord-est de Plymouth, eh bien, remporte la Coupe d'Europe. Il y a eu une faute quelque part, il y a eu une discussion en tout cas entre Monsieur Howens et ses assistants.
En termes de vidéo,
et c'est vrai que ce n'est pas un exemple là, parce que
cet après-midi entre Liverpool et Everton, je vous annonce que c'était pas un exemple non plus. Hein.
Pardon, je vous ai pas entendu.
Non, je disais qu'entre Liverpool et Everton, c'était pas un exemple non plus la vidéo cet après-midi.
Très bien, toujours est-il qu'il est très pointilleux et il est tellement pointilleux qu'il veut une explication avant même d'entériner ce que le tableau d'affichage d'ailleurs a déjà immortalisé.
C'est aussi long qu'en foot. Hein.
Et de 31-27. En faveur, bien sûr, de Exeter.
En rugby, on entend l'arbitre.
Leader du championnat anglais et le Racing qui ne rejoindra pas le Stade Toulousain, Brive et Toulon au palmarès français de cette Coupe d'Europe. Et oui, messieurs, c'est fini. Okay. J'ai terminé donc ma petite discussion avec mes arbitres assistants. Et maintenant, je peux considérer que Exeter remporte la Coupe d'Europe. C'est terminé. Ça, 31-27. Énormément de déceptions et de cadeaux donnés par le Racing. Et Exeter a bien mérité sa victoire, car il faut quand même le remarquer. Exeter est devant depuis le début de ce match.
Merci Jean-Michel Rascol. Après la publicité, Paul Pogba, Corinne Diacre et les tirs au but.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Messieurs, on va les débats zapping, les micro-débats, les nano-débats, comme on disait avec Pascal Praud dans le multiplex à 19h39. Paul Pogba, c'est... Alors je ne vous cache rien, c'est un sujet qui m'a été proposé par Gilles Verdez. Mm-hmm. Hein, on a fait le sommaire, Gilles, on a échangé un petit peu cet après-midi. Paul Pogba est-il le meilleur milieu de terrain du monde?
Alors, la réponse est oui, à égalité avec Kevin De Bruyne, si vous voulez, mais c'est le meilleur.
Pourquoi cette question vous
est... Parce qu'il y a parfois des critiques sur son côté nonchalant, est-ce qu'il a été brillant avec les Bleus, pourquoi il n'était pas titulaire en Croatie.
Il n'a pas été extraordinaire non plus.
Excusez-moi Christian, en Croatie, il a été génial. Ah bon, il rentre et le match bascule, il fait gagner le match. Une occasion, jeu court, il fait l'ouverture.
La passe.
Oui. Il change tout. Oui, le guerrier rentre. Deschamps, à un moment, regardait comme ça. Où est mon sauveur? Mettez-moi Pogba. Le sauveur est entré. La France a gagné. Gilles. À Manchester United, ils ne veulent plus jamais le lâcher. C'est le meilleur du monde.
C'est le meilleur du monde.
Mais Gilles, je crois qu'il s'est arrêté en 2018. À la Coupe du Monde, il a été extraordinaire. Et pour moi, c'était l'équipe de France de Paul Pogba. Et il peut redevenir ce joueur-là. Mais il se trouve que depuis le début de saison, à Manchester, il est catastrophique. Il est catastrophique. OK? Là, je suis d'accord avec Gilles. Il a été intéressant. Pardon ?
Il revient d'une très longue absence, quand même.
Oui, mais d'accord. Mais là, la question, c'est est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde
actuellement ?
C'est qui le
meilleur, selon vous, alors ?
De Bruyne, déjà, bien sûr.
À égalité avec De Bruyne, d'accord.
Et il se trouve... Moi, je ne parle pas du potentiel du joueur. J'adore ce joueur et je pense que le salut de l'équipe de France passe par lui.
Mais
à Manchester United, son début de saison est catastrophique.
Oui, si vous voulez. Mais je pense qu'il...
Non, mais il incarne aussi une époque, je trouve. C'est-à-dire qu'il choisit ses matchs, il choisit ses compétitions. C'est un homme de coups et un homme de tournoi. Et quand il joue, il est d'une élégance rare.
C'est pas un compliment quand même.
Mais ces dernières saisons à Manchester United ne démontrent pas qu'il est régulier.
Les gens vont acheter les abonnements, mais match par match. Donc il a compris qu'en fait, il fallait être bon sur les matchs qui étaient
assez simples.
Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le profil à la fois physique, technique de Paul Pogba en fait probablement intrinsèquement
le meilleur
footballeur.
Adem Benarfa, c'était intrinsèquement Lionel Messi.
Les connaisseurs de foot se retrouvent.
Mais ceux qui regardent les matchs anglais, ils pensent autre chose.
Mais Manchester United ne veut plus le lâcher, son entraîneur ne jure que
c'est normal, ils vont pas le laisser partir libre.
Il a cassé les lignes, effectivement, ça a permis à l'équipe de France de marquer. Vous l'avez trouvé extraordinaire.
Je trouve intéressant. Mais en revanche, Paul Pogba de la Coupe du Monde 2018, extraordinaire.
De victoire, il est faiseur de victoire.
Ouais. Voilà. Bon, très bien.
Pas Manchester.
L'association, après le schéma, c'est assez rediscuté. Mais en tout cas, moi je trouve que l'association de Kanté, Pogba et Rabiot sur le papier
est extrêmement prometteuse. Mmh. Parce qu'il y a tout.
Christian, est-ce que le Real est le meilleur, le plus grand club du monde, un des plus grands clubs du monde?
C'est l'un des plus grands clubs du monde. J'aurais préféré la question, est-ce que c'est l'un des plus grands milieux de terrain du monde?
Le Real ne veut que Pogba.
Zidane ne veut que Pogba.
Le meilleur,
c'est le meilleur. Et son président, il ne voulait pas mettre les sous.
Corinne Diacre et le Lion féminin, rien ne va plus. Alors Corinne Diacre positive au coronavirus. Ouais. Hein,
c'est ça fera du bien à ses joueurs.
Moi, une chose positive.
Non, vous pouvez pas.
Elle ne sera pas là au début du rassemblement.
Mais là,
il n'y a aucun caractère de gravité. Si elle était malade, on ne dirait pas ça malade avec des problèmes de santé.
Tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. On peut mettre un peu d'humour.
Un tout petit peu, on peut se détendre un peu quand même. Avec Corinne Diacre, c'est pas facile.
Non, mais alors attendez, j'essaie de le ramener un peu pour rater la portée de vos propos et vous en remettez une louche derrière.
Il n'y a pas besoin d'être tiré au but, il part tout de suite.
Là, on peut y aller.
Elle sera absente donc du rassemblement qui démarre lundi. L'équipe de France joue contre la Macédoine du Nord, elle ira en Autriche. Elle n'a pas convoqué Amandine Henry.
Non. C'est comme si Didier Deschamps n'avait pas convoqué Hugo Lloris. Hein.
Choix sportif.
Ouais. Elle n'était pas en forme.
Je ne pourrais pas terminer ma phrase. Elle a ôté, on le sait, à Renard, son brassard de capitaine. Et il y a eu un autre problème, je ne sais plus lequel.
Bref. Il n'y a que des problèmes. Il y a la gardienne de but historique de l'équipe de France qui ne veut plus venir. Sarah Boisdi, elle ne veut plus venir en équipe de France.
Corinne Diacre a un problème avec l'Olympique lyonnais féminin, Karim Nedjari.
Non, elle a un Karim.
Moi, sincèrement, pour préparer cette émission, j'ai donné des coups de téléphone pour savoir quel est le problème avec Corinne Diacre, que ce soit la fédération française et tout. Je n'ai pas trouvé quelqu'un, une seule personne, pour m'en dire du bien. Visiblement, elle a un problème de rigidité, elle a un problème humain, elle a un problème... Tout le monde s'attendait que le Gret s'en sépare. Il l'a mis à la surprise générale. Et là, elle peut pas avoir raison contre tout le monde.
Non, mais elle entraîne quand même la troisième sélection FIFA au monde.
Et la meilleure, je vous rappelle...
Bah, très bien.
Elle va emmener cette équipe de France en phase finale de l'Euro.
Alors, très bien, Christian. On va faire un petit comparatif rapide. En fait, c'est simple. Le football féminin, il n'y a pas la densité qui existe au haut niveau qui est dans le football masculin. Donc, en gros, pour savoir s'il y a une performance, il faut la comparer par rapport à des équipes qui sont comparables, de très haut niveau. Et on s'aperçoit, c'est très simple, on a l'Olympique Lyonnais en France. L'Olympique Lyonnais, à chaque fois qu'il y a une confrontation directe avec un adversaire à sa hauteur, il se passe qu'il y a quelque chose et que ça fonctionne. L'équipe de France, en fait, la Macédoine, toutes les sélections qui sont évidemment à sa portée, et dès qu'on arrive sur du lourd, là, l'osmose, tout l'inverse de ce qui se passe avec l'équipe masculine.
Je veux bien tout entendre là, concernant Corinne Diacre. Effectivement, elle a sans doute un peu les mêmes beaucoup de problèmes de communication, de rigidité, etc. Mais n'oubliez pas que quand il y avait eu un problème avec l'équipe de France de sortie de la Coupe du Monde, elle s'est expliquée avec les joueuses et visiblement tout le monde était totalement rassuré.
L'un des pires rassemblements de l'histoire.
Non, mais je parle
c'était
de la réunion,
au mois de septembre.
La réunion
oui,
pour débriefer,
une catastrophe. Une catastrophe, ça s'est très mal passé. Ce rassemblement s'est très mal passé. Non, mais là on n'est pas sur de l'opinion, on est sur des faits.
Alors, les faits, c'est les faits. C'est elle qui faisait les séances d'entraînement. Et je peux vous dire que toutes les joueuses.
Elle était adjointe.
Et les Lyonnaises, étaient contentes d'avoir les séances d'entraînement mises en place par Corinne Diacre.
Elle était adjointe.
Elle peut être très bonne technicienne.
Guy Stéphan, il est adjointe Didier Deschamps.
Elle peut être très bonne technicienne, mais très mauvaise manageuse.
On fait un procès en sorcellerie terrible. À celle qui est une héroïne. Je ne vous laisserai pas faire ça parce que vous êtes inféodé à l'Olympique Lyonnais et à quelque chose caractérielle qui vous ont tortillé le cerveau.
Bien sûr, on
maintenant,
connaît
vous
bien,
croyez d'ailleurs. Que leur patronne ne les écoute pas. Mais une patronne qui est la patronne, c'est formidable. C'est une chef, Corinne Diacre. Laissez-la être chef. Et si les joueurs ne sont pas contentes, qu'elles ne viennent plus en sélection.
On n'a jamais raison contre les joueurs. Jamais.
Jamais raison contre tout le monde.
Et surtout quand vient d'ailleurs Philippe, quand
c'est pas un club, c'est
comme
une sélection.
Comme le club, c'est la moitié de l'équipe de Lyon, c'est l'équipe de France qui gagne tout depuis des années et des années. Et elle veut leur apprendre le football.
Quand la Coupe du Monde se passe pas très bien, elle demande la tête de son adjoint. Et elle ne l'assume pas d'ailleurs, parce qu'elle voulait pas dire que c'était elle, mais c'est la réalité. Quand elle a une mauvaise image, elle demande la tête du directeur, du responsable de la communication de l'équipe de France féminine. Elle l'obtient. Quand elle a des problèmes avec les Lyonnaises, elle s'en débarrasse, elle les met de côté, ou alors c'est les Lyonnaises qui se mettent de côté. Après, là, la réalité, c'est qu'on est arrivé dans une impasse. Cette semaine, les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont rencontré Noël Le Graët.
Ah, donc c'est un putsch.
Et ont demandé, clairement, elles ont dit à Noël Le Graët que ça n'allait plus du tout. En conséquence, Corinne Diacre, elle a fait un exemple, elle a marqué son autorité en ne convoquant pas notamment la capitaine, mais ses explications n'ont aucun sens.
Mais bien sûr, c'est un putsch organisé par les Lyonnais.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
À Lyon, les joueuses sont les patronnes. Il n'y a pas d'entraîneur. L'entraîneur de Lyon, ce sont les joueuses. Elles n'ont pas d'entraîneur.
J'ai besoin d'un coach. Gilles, vous qui justifiez tout par les résultats, elle gagne tout.
Non, mais je suis d'accord, Karine. Elle sera jugée à l'aune des résultats.
Elle n'en a pas. Megan Rapinoe la remercie.
Si elle ne gagne pas le championnat d'Europe, effectivement, parce qu'il y a quoi dans ce championnat d'Europe? Il y a l'Allemagne, un petit peu les Anglais.
Il y a les Pays-Bas, il y a les Anglais.
Mais elle a des problèmes avec tout le monde.
Avec Katoto, la jeune attaquante du PSG, elle a des problèmes. Avec les anciennes, elle a des problèmes. À tel point, mais vous vous rendez compte que Sarah Boisdi, elle ne veut même plus venir, alors que c'est son rêve de jouer en équipe de France.
Megan Rapinoe, qui est la référence du football féminin dans le monde, a quand même remercié Corinne Diacre d'être là pour avoir mis cette équipe de France à l'envers, quand même.
Mais bon, en fait, vous avez de l'indulgence parce que c'est du football féminin. Si c'était la même chose chez les garçons...
En cherchant bien, mais je n'ai pas préparé cela.
Si c'était la même chose chez les garçons...
Ou des sélectionneurs ou des entraîneurs qui étaient également particulièrement...
Mais si demain...
Rinus Michels, c'était quand même pas intense.
Si demain, Paul Pogba...
On a eu affaire quand même... Keman, c'est quand même pas intense.
Mais c'est pas la question. Tu peux ne pas être intendre et avoir les joueurs avec toi.
Si demain, vous êtes des putschistes.
On est légalistes, si demain, Paul Pogba, Hugo Loris, Olivier Giroud, ne voulait plus travailler avec Didier Deschamps, vous vous poseriez des questions sur Didier Deschamps.
Il n'y aurait jamais ça. Là, c'est un putsch organisé par un club que vous cautionnez.
J'ai eu une phrase un peu malheureuse à la Coupe du Monde 2018. Je disais qu'elle avait tous les défauts de Didier Deschamps et aucune de ses qualités. Je le pense.
19h49, une nouvelle page de publicité et les tirs au but qui nous emmèneront jusqu'à 20h, 20h, 23h. RTL Foot, là tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Les 10 dernières minutes, on fait le match avec les tirs au but, mais dans l'immédiat, c'est la mi-temps. Les matchs de Ligue 2, Baptiste Durieux.
Et toujours un partout entre le Havre et Châteauroux, 0-0 entre Ajaccio et Toulouse. Nancy qui mène 2-0 face à Dunkerque, 0-0 entre Rodez et 3-0-0 également entre Amiens et Grenoble. Niort qui mène face à Caen, 1-0 et 0-0 toujours entre le Paris FC, leader toujours de cette Ligue 2, face à Pau.
Et peut-être une dernière salve de résultats pour les premières périodes de Ligue 2, puisque c'est en approche de la mi-temps, ou c'est la mi-temps, Baptiste?
Je viens de le faire, Christian.
Les messages, les réseaux sociaux, là, pardonnez-moi.
Mais il n'y a aucun problème.
C'est l'âge, vous savez.
Mais oui, bien sûr. Avec votre expérience, il n'y a pas de problème, normalement, Christian. Beaucoup de messages sur Paul Pogba, messieurs. Paul qui nous disait si De Bruyne, Toni Kroos, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Kimmich et Fabinho n'existaient pas, effectivement, Paul Pogba serait le meilleur milieu de terrain du monde. Message de Flavien, son apport physique et défensif, sa qualité technique de passe, de transversale, sa puissance et sa qualité de tir. Oui, Paul Pogba est le meilleur du monde et le plus complet. Et puis des messages sur Corinne Diacre, Vincent qui nous dit le football féminin a tellement besoin d'une bonne communication pour s'émanciper et Corinne Diacre ne fait qu'enterrer le football féminin.
Voilà, bon bah c'est les avis, hein, les avis, voilà.
Et juste une toute petite information sur le football, sur la scène du football européen, c'est important. Van Dijk, le défenseur de Liverpool, vient de subir une blessure au ligament croisé et il sera absent au moins 6 ou 7 mois. C'est une catastrophe pour Liverpool.
C'est ce que j'étais en train de lire justement et c'est pour ça que j'étais pas attentif au résultat Ligue 2. Effectivement, c'est vraiment une catastrophe.
Qui a été victime d'un geste abominable.
Pas sanctionné
tout à l'heure.
Pickford.
Le gardien de but.
Qui l'a taclé au niveau des genoux.
Tiens, mais on va parler du football anglais. Mais alors, parce que l'actualité n'était pas extraordinaire à part Mediapro cette semaine, les tirs au but. Donc je rappelle, hein, une question, un coup de sifflet, et vous vous emparez du micro. Faut avoir le mental, il faut venir, faut avoir de la caisse, hein, tout simplement. Alors attendez, faut que je retrouve plutôt.
C'est sur Corinne Diacre?
Non. Ah oui, alors voilà. Everton Liverpool. Là, ça c'était vraiment le derby. Hein. Donc attention, match nul, 2-2. Mais Liverpool aurait pu l'emporter dans les dernières secondes si la vidéo n'avait pas annulé un but d'Anderson sur un hors-jeu vraiment pas évident. Toujours convaincu par l'arbitrage vidéo?
Mais le problème, c'est pas l'arbitrage vidéo. Le problème, ce sont les gens qui décident. Ce sont les arbitres. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec vous. Cette action était, encore une fois, c'était un peu absurde. Il faudrait un peu plus de souplesse sur le hors-jeu, notamment, parce que là, quand on est à 2 cm près, ça devient ridicule. Mais si les arbitres étaient meilleurs, le VAR ne serait pas un problème.
Le problème, c'est la vidéo. Cette vidéo stupide qui fait que maintenant, les arbitres sont soumis à un ordinateur. Ils sont robotisés. Ils ont la peur du superviseur qui a peur de sa vidéo, qui regarde au millimètre, il est hors jeu d'un millimètre. On est en train de perdre le football.
Puis surtout, quand on a un mauvais outil, ben on l'utilise mal.
On l'utilise ça, c'est pas. Ça serait non, mieux.
La perte d'autorité est induite par la vidéo. Il y a eu, on parle d'Everton Liverpool, mais Reims-Lorient, en début de rencontre, il y a un ballon qui rentre ou qui rentre pas dans le but. Mais alors, la vidéo après, regarde si le ballon est rentré ou pas dans le but. S'il y avait une charge sur le gardien. Et in fine, ce qui est sifflé, c'est un retour de hors-jeu qui précédait la charge, qui précédait le ballon qui a failli rentrer, mais qui n'est pas rentré. On est resté 10 minutes sur ce truc-là.
Mais je suis comme vous, je suis contre la vidéo. Mais pour autant, si les arbitres étaient bons, il y aurait les bonnes décisions.
Mais on n'a pas besoin de vidéo pour sortir Pickford et lui mettre le carton rouge quand même.
Non, effectivement.
Et pourtant, la vidéo, c'est évident.
Et puis on perd l'instantanéité des choses, on perd le ressenti du terrain.
Un autre derby, demain soir, 21h sur RTL, Lille-Lens. Un derby ? Mais alors c'est la question, c'est pas facile. Quel derby ? Parce qu'il n'y a pas de supporters en vérité. Voilà. Ah oui. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui.
Bon, on est obligé de jouer.
Attendez,
le ballon est posé.
On a vu qu'ils étaient ingénieux ces derniers jours, les supporters.
Voilà, vous avez démarré avant le coup de sifflet.
C'est ça. On est trop rapide pour
alors, quel derby.
Mais on ne se rend pas compte vraiment de l'époque que l'on est en train de vivre, quoi. Regardez tous ces matchs sans. Je pense pour les joueurs, c'est important. Mais pour nous, encore aussi, regardez ces matchs-là sans ambiance. Même cet après-midi, le Everton-Liverpool, imaginez avec un public. Le Lens-Lille, je suis d'accord avec vous mille fois. C'est des derbies, mais les derbies. La quintessence. Et au moins, le Covid a servi au moins à ça, à se rendre compte d'une chose, c'est que le public et le spectateur est important.
Mais le paradoxe, c'est qu'on joue sans spectateur. Il a servi aussi, hélas, à mon avis, à prouver que le football pouvait se jouer, et peut-être, pas ad vitam aeternam, mais pendant de longs mois, sans personne. C'est ça le problème.
Oui,
mais on continue à jouer, je vous signale.
Il sera déprécié,
on voit bien que c'est plus la même chose. Et le PSG qui se rend à Nîmes sans une costière blindée, c'est pas un match. Les matchs au Vélodrome ne sont plus les mêmes. Au moins, le football et le supporter va retrouver sa place après Covid, parce qu'il y aura un après Covid.
Messieurs, Bruno Martini, gardien de la JOCR et de Montpellier, hospitalisé depuis une semaine en soins intensifs après un sérieux infarctus. Ouais, c'est simple, hein. Qui a envie de lui envoyer une onde positive ?
Tout le monde, que voulez-vous dire à part...
Non, parce que je voulais évoquer.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est voilà. Évidemment...
Et je peux vous dire que j'ai passé un quart d'heure. Je vais
c'est évidemment, que je c'est évidemment terrible, ça va de soi. Que dire à part, malheureusement, des banalités dans ces moments-là et lui souhaiter le meilleur, ainsi qu'à sa famille. Malheureusement, pour l'instant, ça va pas fort, évidemment.
Voilà, je pose cette question pour nous souvenir que Bruno est vraiment un type bien, type vraiment très bien. C'est un bon gardien, ça a été. Un bon gardien, plus de 30 sélections équipe de France... À la JOCR, formidable, à Montpellier également. Il a joué un petit peu à Nancy, une saison, je
crois. Un entraîneur
des membres du staff de l'équipe de France.
Voilà. Champion d'Europe 2000, et il était gardien de but 2000, et entraîneur.
Entraîneur.
Hein. Et 2006, finale.
Puis il est jeune, il a 59 ans. Bon, voilà.
Souhaitons que sa constitution de sportif l'aide dans cette épreuve terrible.
Marseille-Bordeaux, ce soir à 21h, on termine toujours avec évidemment le match du soir. C'est pas facile à trouver. Franchement, cet après-midi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, et une grosse migraine. Le duel Cuisance, Marseille, Ben Arfa, qui est sur le banc des remplaçants, Bordeaux, vous fait-il saliver ?
Énormément. Et moi, c'est Ben Arfa. Franchement, l'icône, le technicien pur est de retour. J'ai envie qu'il rentre, j'ai envie qu'il marque, je sais pas, mais j'ai envie qu'il brille, parce que je l'aime. Alors j'espère qu'il est en forme, pas en surpoids, mais j'en ai le désir vraiment. Vraiment, je l'aime.
Sur le banc des remplaçants, oui. Normalement ce soir. Oui. Hein,
peut-être qu'il jouera 10-15 minutes, en tout cas c'est ce qui était prévu. Il n'a pas grand-chose de plus dans les jambes, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on avait pu voir, notamment quand il était arrivé à Rennes, il n'est pas en surpoids.
Alors vous avez bien compris la question, Cuisance, Ben Arfa... Mm-hmm.
Mais Cuisance, moi je suis très excité à l'idée de voir jouer en Ligue 1.
Et j'ai envie de dire, dénominateur commun, un mercato pas terrible, terrible, quoi. Voilà.
Mais ça, oui. Tout à l'heure, les chiffres ont été donnés par Karim. On est dans une période à part et c'est comme ça. Mais des curiosités, il y en aura toujours. Si c'est pas des joueurs qui viennent, ce sera des joueurs, des jeunes joueurs qui vont éclore. Il y aura des choses à voir. C'est la magie du sport, c'est qu'il y a toujours des nouveautés.
Et Karim. Tout le monde va regarder parce qu'il y a une légende urbaine dans le football qui dit qu'un ancien revient toujours sur cette terre et marque toujours un but.
Surtout au PSG.
Non, mais aussi au l'OM, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont passés pour le PSG. Mais je vois très bien arriver Ben Arfa, rentrer sur le terrain dans les dernières minutes et plonger l'OM dans un océan d'incertitude.
Et on peut conclure en rappelant quand même qu'Atem Ben Arfa avait des propositions, notamment un peu exotiques, qui auraient été bien plus gratifiantes pour son portefeuille. Donc il a fait le choix du terrain, du club, et ça, on peut s'en féliciter.
Fin de refait le match. C'était la 9e ce soir et c'était un plaisir. Plaisir non dissimulé avec vous ce soir, messieurs Karim Nedjari.
Merci, Christian.
L'ami Verdèze, évidemment, l'ami Tarago, l'ami Sansfourche, à très bientôt en tous les cas. 20h23h RTL Foot, avec Eric Silvestro, avec Xavier Domergue, avec Giovanni Castaldi et Quentin Vasselin pour tous vos messages, et puis l'intégralité bien sûr de Marseille-Bordeaux. Et surtout, merci à vous tous de votre fidélité, merci à Baptiste Durieux pour les messages dans Fait le Match, et merci à Damien Béchaud pour la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de RTL Foot sur RTL. 19h58, la pub et les informations de 20h.
Chaque semaine, on retrouve un gagnant Winamax. Et ce soir, c'est Chris d'Avignon qui est avec nous. Salut Chris.
Salut Raymond.
Bon Chris, raconte-nous sur quel match de la dernière journée de championnat tu as parié.
J'ai parié sur Rennes-Rennes et Metz-Lorient. J'ai fait un combiné. Les deux équipes marquent de la tête, je les ai combinées. Et pour une mise de 1 euro, j'ai remporté 1024 euros.
Waouh, 1024 en misant 1 seul euro. Bravo, là tu as dégoté une énorme cote. Dis, tu fais souvent des combinés en y ajoutant un pari spécial genre but de la tête?
C'est pas souvent. En fait, j'avais décidé de me pencher sur ça. En regardant les matchs, j'ai vu que beaucoup d'équipes marquaient de la tête. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer.
Et tu as eu raison de tenter ça. Ça rapporte un très beau pactole. Et tu as l'habitude de faire d'autres paris spéciaux?
Alors, je joue aussi les pénaltys. Les deux équipes marquent sur pénalty aussi. Du coup, avec les deux équipes, ça fait des cotes à 1000 euros.
D'accord. Et j'imagine qu'avec des grosses cotes, tu ne mises pas beaucoup d'argent pour limiter les risques.
C'est ça. Je mets pas beaucoup. Moins de 5 euros.
Et qu'est-ce que tu analyses comme données avant de faire ce genre de pari spécial?
Je regarde les 5 derniers matchs de chaque équipe pour analyser ceux qui marquent le plus de pénalty. Ceux qui marquent de la tête, en fait, je regarde les matchs chaque week-end.
Eh bien, merci pour tous ces conseils, Chris, et encore félicitations pour ton énorme gain. Bon week-end à toi et à bientôt.
Merci à toi, Raymond. Bon week-end. Au revoir.
Au revoir, Chris. Et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle chronique Winamax.